Bonjour Régis Coulanges, merci pour cette émission pour la dignité.
Bonjour Odile, bonjour tout le monde. C'est les premiers lundis de chaque mois maintenant. Je suis responsable de la formation dans la région.
Amnesty International, tous les premiers lundis du mois.
Alors, tous les premiers lundis de chaque mois, de 9h à 10h sur fréquence Mistral 99.3, je vous propose une émission qui s'appelle « Pour la dignité ». Et qui est consacré aux droits humains et aux actions, aux enquêtes, aux recherches d'Amnesty International en France et par le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une action que chacun peut faire, même s'il n'est pas membre d'Amnesty International. C'est ce qu'on appelle les appels mondiaux de chaque mois. Ensuite, on parlera de Total, cette fameuse entreprise qui fait des bénéfices extraordinaires. Et Total, c'est la loi du plus fort. En Ouganda notamment. On parlera ensuite de l'Éthiopie, un conflit très meurtrier qui se déroule loin des regards. On s'interrogera comment juger des crimes de guerre commis en Ukraine. Puis je vous parlerai du dossier d'intervention que le couple dinois vient d'obtenir concernant un prisonnier d'opinion à Cuba, Luis Manuel Otero Alcantara. Et nous finirons par un appel de l'association Soutien aux jeunes isolés étrangers et puis aux actions du couple dinois, notamment les 10 jours pour signer en décembre à la médiathèque avec 2 expositions. Voilà pour le programme. Donc, chaque mois, Amnesty International France édite un journal qui s'appelle « La Chronique ». La médiathèque de Digne-les-Bains le reçoit parce que nous l'avons abonné. Mais vous pouvez aussi retrouver les informations qui sont sur ce journal sur le site amnesty.fr. Alors chaque mois, nous avons 2 pages dans la chronique qui s'appellent « Chaque lettre compte, écrivez pour des personnes en danger ». Ces lettres, vous pouvez... Si vous allez à la médiathèque, vous pouvez les obtenir sur le journal. Mais vous pouvez aussi aller sur le site amnesty.fr et vous tapez « Appels mondiaux » dans le moteur de recherche d'Amnesty et vous aurez les 3 appels du mois. Vous pouvez télécharger les courriers. Ensuite, vous mettez votre nom. Si vous êtes membre, vous mettez membre. Parce qu'à la fin, il y a en tant que membre ou sympathisant. Si vous êtes sympathisant, vous, au lieu de mettre membre, vous mettez sympathisant, en tant que sympathisant. Et vous envoyez ces courriers aux autorités avec une copie à l'ambassade en France du pays concerné. Par exemple, pour vous citer un exemple ce mois-ci, nous écrivons... donc ce sont des appels mondiaux. Hein. Ça a un impact important parce que toutes les sections d'Amnesty de par le monde vont écrire pour ces personnes. Alors au mois de novembre, nous avons choisi en Chine Ilham Toti. C'est un professeur d'économie à l'Université centrale des nationalités de Pékin. Il est le fondateur du site Uyghur Online. Le 23 septembre 2014, il a été condamné à la détention à perpétuité. Ilham Toti avait été appréhendé à son domicile à Pékin en janvier 2014, accusé de séparatisme, un chef d'inculpation souvent utilisé contre les Ouïghours, qui dénonce les violations des droits humains. Un très grand nombre d'hommes et de femmes issus de groupes ethniques majoritairement musulmans du Xinjiang ont été envoyés dans des camps d'internement ou des prisons. Ce système s'insère dans un vaste processus d'assujettissement et d'assimilation forcée des minorités ethniques. Le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme du 31 août révèle l'ampleur des violations des droits humains commises dans le Xinjiang. Donc là, ensuite, il y a la demande. Donc, en tant que membre ou sympathisant, là, vous mettez ce que vous êtes, d'Amnesty International, je vous demande de veiller à ce que, dans l'attente de sa libération, Iliam Toti soit protégé contre toute forme de torture et d'autres mauvais traitements en détention. Les autorités carcérales doivent lui permettre de communiquer avec sa famille, ses avocats et de bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. Voilà, puis on termine par une formule de politesse. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. C'est envoyé au fameux président Xi Jinping avec copie à l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris. Le deuxième cas concerne le Nigeria. On écrit là à l'inspecteur général de la police nigériane concernant une jeune fille qui avait 14 ans, qui s'appelle Kiren Apush Akpaguer. Elle était élève dans un pensionnat d'Abuja. Avec sa mère, elle avait prévu de faire des magasins avant les vacances, mais le 22 juin 2021, elle est morte des conséquences d'un viol qui se serait produit dans son école. Le rapport d'autopsie demandé par la police confirme que Kiren a été violée et sodomisée. Elle est morte des suites d'une infection causée par le préservatif. À ce jour, l'enquête piétine. Pour l'instant, personne n'a eu à répondre de ses actes. La mère de Kiren, Viviane Akpaguer, ainsi que le reste de sa famille, se heurtent à des obstacles dans leur quête de justice. Les autorités de police ont notamment réclamé à la mère de payer l'autopsie, ce qu'elle a fait avant de se voir interdit l'accès au rapport. Voilà. Donc après, on demande de mener sans délai une enquête efficace, impartiale, exhaustive et transparente sur le viol et la mort de Kiren. Et on demande également que les responsables présumés soient traduits en justice dans le cadre de procédures équitables, conformes aux normes internationales et sans recours à la peine de mort. Et puis le troisième cas de ce mois de novembre concerne un Égyptien, Ala Abdel Fattah et Mohamed El Bakr, qui est son avocat. Donc ce militant est en danger, il a été arrêté en septembre 2019, détenteur de la double nationalité égyptienne et britannique. Il est en grève de la faim depuis 6 mois pour dénoncer son emprisonnement inique, les conditions de détention cruelles et la privation de visites consulaires. Mohamed El Bakr, avocat spécialisé dans le droit humain et directeur d'une ONG, a été appréhendé le même jour alors qu'il se rendait au bureau du procureur pour représenter Ala Abdel. Depuis, ces deux hommes sont détenus arbitrairement dans des conditions s'apparentant à de mauvais traitements. Le 20 décembre 2021, un tribunal d'exception les a condamnés respectivement à 5 et 4 ans d'emprisonnement. Ils ont été déclarés coupables d'accusations forgées de toutes pièces, à savoir de diffusion de fausses informations, alors qu'ils n'avaient fait qu'exercer leurs droits humains. Malgré l'iniquité flagrante du procès, le verdict est sans appel. Ils sont tous les deux des prisonniers d'opinion et puis on demande donc leur libération immédiate et sans condition. Et dans l'attente, on leur demande de veiller à ce qu'ils soient protégés contre la torture et d'autres mauvais traitements et qu'ils puissent communiquer régulièrement avec leurs proches et leurs avocats. Et c'est en Égypte, là où commence la COP, voilà, pour le climat. Et les autorités égyptiennes ont interdit à de nombreuses associations de se rendre en Égypte, voilà, dans ce pays où se tient cette importante réunion pour le dérèglement climatique. Voilà, ça pose de grosses, grosses questions, parce que le dérèglement climatique, c'est une histoire de droits humains, bien sûr. On va maintenant écouter une franco-algérienne, Souad Massi, dans sa chanson « Une seule étoile ».
Pourquoi faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'on borde ta route de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel. regarde où se trouve l'essentiel. Des royaumes immenses, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, c'est un feu de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi. Un oiseau sans plume qui tremble et qui piaille, c'est dans ton miroir tout ce que l'on voit. Peux-tu pardonner sans peine ou regret? Es-tu droit et pur? Es-tu l'innocent? Ne serait-ce qu'une fois as-tu admiré l'aurore qui se lève, la nuit qui attend, y a tant d'étoiles dans le ciel. Aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel. Et le ciel un jour pour toi s'ouvrira. Choisis les poèmes que tu chanteras. Pétris la farine et fais cuire le pain. Qu'importe qui t'aime ou ne t'aime pas, souris mon ami, montre le chemin. Tu verras peut-être la terre et le monde, et tu entendras monter les prières. Tu découvriras à chaque seconde le soleil.
Voilà, très belle chanson. Nous allons maintenant parler de Total, cette entreprise qui fait des bénéfices gigantesques. Et en Ouganda, ben, Total, c'est la loi du plus fort. En effet, il y a un projet démentiel d'extraire du pétrole dans la région du lac Albert. C'est un peu au-dessus du lac Victoria, à côté du parc national de Murchison Falls. Et d'acheminer ce pétrole par pipeline jusqu'au port de Tanga, en Tanzanie. Voilà, c'est un projet, ce sera le plus grand pipeline chauffé du monde. Chauffé parce que ce pétrole est visqueux et il faut que les tuyaux soient à 50 degrés pour que le pétrole puisse s'écouler. Voilà, alors cela, bien sûr, va un peu à l'encontre de ce qu'on doit faire pour le changement climatique. Et puis, c'est des atteintes aux droits humains gigantesques dans ce pays. Parce que derrière ce projet pharaonique, il y a des personnes, des gens qui sont expulsés. Je vais vous citer quelques cas. Donc, c'est encore un reportage qui a été fait et qui se trouve dans la chronique du mois de novembre. Donc, vous pouvez le retrouver à la médiathèque ou sur le site, bien sûr, amnesty.fr. Alors, par exemple, je vous cite le cas de Robert Birimouille, 32 ans, qui, un jour de 2018, surprend des gens sur son terrain. Qui sont en train de prendre des photos. Donc, il n'a pas bien compris, mais lorsque les villageois ont été conviés à une réunion publique, on leur a annoncé que nous nous trouvions sur le trajet du futur oléoduc construit par l'entreprise Total Energy. Certains d'entre nous étaient contents, ils pensaient gagner beaucoup d'argent. D'autres, comme moi, étaient plus inquiets. Nous savions que nous n'aurions pas d'autre choix que d'abandonner nos terres. La prédiction se révèle exacte, l'avis d'expulsion est prononcé par l'État, les intrusions sur ces terres reprennent de plus belle, des pots de bois délimitant le tracé du pipeline fleurissent d'abord sans prévenir, en travers de son hectare de terrain. Puis des hommes débarquent sans s'annoncer, des employés de New Plan, un sous-traitant de Total Energy, étaient en train de compter et photographier mes plantations en compagnie du chef de village sans m'y avoir convié. Je les ai immédiatement chassés, dit encore Robert Birimouille. Un nouveau comptage est organisé, cette fois en sa présence, puis le paysan se voit présenter la liste de ses semences éligibles à l'indemnisation par Total Energy. Le compte n'y est pas. Le nombre d'arbres que nous avions recensés ensemble était divisé par deux sans explication, explique le père de famille brandissant une pile de documents officiels couverts de chiffres. Au printemps 2019, un message est affiché à l'entrée du village par le sous-traitant de Total Energy. Aucune nouvelle plantation ne doit plus être ajoutée aux zones délimitées sous peine de ne pas se faire indemniser par Total Energy. C'est la date limite. Si Total Energy plaide aujourd'hui le manque de communication, Robert, à l'instar de beaucoup d'habitants de la région, interprète cette annonce comme une interdiction totale d'exploiter la terre en attendant son indemnisation. Une situation illégale au regard de la loi ougandaise qui sonne comme un coup de tonnerre dans cette partie déshéritée de l'Afrique où la propriété terrienne constitue souvent l'unique rempart contre la misère. Donc il nous a dit « N'osant plus exploiter mon terrain, j'ai enchaîné les petits boulots au village, mais je ne gagne plus que le quart de mon revenu d'avant. Mes 6 enfants ne vont plus à l'école. Nous ne mangeons pas à notre faim. » La construction de l'oléoduc enchaîne les retards. L'indemnisation demeure dans les limbes, non distribuée, et Robert décide finalement de rassembler les griefs de la population locale au moyen d'une pétition, sorte de cahier de doléances, répertoriant tous les mécontentements liés au paiement des indemnités d'expulsion. Voilà, donc c'est un gigantesque réseau de tuyauteries qui va plonger dans la côte terrestre, où quelques 6,5 milliards de barils ont été découverts en 2006. Au sein de cette immense réserve d'hydrocarbures, 1,4 milliard de barils sont exploitables en l'état actuel de la technologie de forage. De quoi propulser l'Ouganda, petit pays pauvre et enclavé, entre les mastodontes congolais et kényans, au rang de quatrième producteur d'hydrocarbures d'Afrique subsaharienne. C'est donc le français Total Energy qui a raflé le plus important gisement, situé au nord du lac Albert. Le poids lourd du CAC 40, dont la valorisation en bourse est au moins 3 fois supérieure au produit intérieur brut ougandais, s'affaire à forer 400 puits de pétrole, dont une centaine au beau milieu du parc national de Murchison Falls, havre de biodiversité et joyau de l'industrie touristique ougandaise. Il y a une entreprise publique chinoise qui a, elle, décroché l'exploitation d'un gisement plus modeste au sud du lac. Voilà. Enivré par les effluves de son sous-sol, l'Ouganda échappera-t-il à la malédiction de l'or noir ? En effet, l'adage économique stipulant que la découverte d'hydrocarbures freine plus souvent le développement d'un pays qu'il ne l'accélère, se vérifie déjà pour la centaine de milliers d'Ougandais expropriés afin de laisser place aux oléoducs, puits de forage et autres infrastructures pétrolières. Dans le jargon de Total Energy, ces victimes collatérales, en majorité des paysans, sont surnommées les PAP, les personnes affectées par le projet. Richard, 36 ans, en fait partie. Ces terres sont situées en plein sur le tracé de l'un des oléoducs reliant le champ de pétrole Albert et la raffinerie Doima. Il y a environ 10 ans, alors un riche homme d'affaires a commencé à racheter tous les terrains alentour dans l'espoir de les revendre à Total Energy, nous explique un agriculteur de la région de Bulissa, la principale zone d'extraction de Total Energy. Entouré de sa femme et de leurs 7 enfants, aligné sur une natte à l'ombre d'un manguier, l'homme analphabète raconte « Cette terre appartenait à ma grand-mère, mais je n'ai pas le titre de propriété. » D'après un jugement rendu par le magistrat de Bulissa et consulté par la chronique, l'homme d'affaires obtient un avis d'expulsion visant Baliesima Bido, qui refuse de s'y soumettre et finit emprisonné. Il soupçonne son puissant adversaire d'avoir acheté la justice. « Il a corrompu les autorités pour me faire envoyer en prison pendant 7 mois. » Ma femme m'a fait une fausse couche à cause du manque de soins, puis des inconnus sont venus pouler notre maison. Défendu juridiquement par une ONG ougandaise, le couple de paysans a finalement pu retourner vivre sur son terrain, mais l'affaire toujours en cours auprès du tribunal du district a suspendu la précieuse indemnisation de Total Energy qui a préempté une partie du terrain. Un autre cas, vous voyez que ça affecte des personnes réelles sur le terrain. Dorothy Mbabazi, une paysanne de 47 ans, a le visage rongé par les soucis. Depuis 2 ans, cette mère isolée est traînée en justice par son propre État au motif d'avoir refusé la compensation offerte par le pétrolier français. En 2017, au nom de Total Energy, des gens sont venus me dire qu'ils allaient prendre mon lopin de terre. J'ai refusé, car la somme offerte en échange ne m'aurait pas permis d'acheter une surface équivalente dans les environs. J'ai dû quitter ma terre malgré tout, puis l'État a fait geler mon indemnisation par la justice. Je n'y aurai accès que si j'accepte le montant offert par Total Energy il y a 5 ans. Selon les derniers chiffres publiés par l'ONG Les Amis de la Terre, près de 84 500 personnes affectées sont toujours en attente du paiement de leur indemnisation. Il faut dire que Total a des problèmes financiers, paraît-il. Voilà. Un autre cas, Geoffrey Biakabaga, un autre paysan des environs, raconte avoir été incité par son avocat à accepter l'indemnisation. Il était censé nous aider à nous battre, mais on a eu le sentiment qu'il travaillait pour la partie adverse. Ce sont les femmes qui en pâtissent le plus souvent, prévient Joanne Toumoussim, une militante féministe active autour de Yohoma. L'indemnisation est presque toujours donnée aux chefs de famille et de nombreuses femmes ont été abandonnées par leur mari, parties dilapidées, le peu d'argent obtenu. Alors, alertée dès le début de l'opération, la société civile ougandaise a un temps livré bataille en apportant une aide juridique à la population affectée. Mais l'État ougandais a fini par serrer la vis. Maxwell Atuhura, un activiste des droits de l'homme, témoigne de la répression qui s'est abattue sur Bulisa, où il a milité pendant 6 ans. « Plus j'informais les gens, plus j'étais surveillé », explique ce trentenaire longiligne, la mine soucieuse. Puis un jour d'octobre, un convoi de voitures officielles se garde devant son bureau du centre. Les chefs locaux de services de renseignement, de la police et du département d'enquête criminelle sont venus en personne pour en finir. Ils ont proféré des menaces de mort et m'ont donné 2 heures pour mettre la clé sous la porte. J'ai fui à Kampala, la capitale, dans la foulée, raconte l'activiste, qui était alors le dernier à opérer directement depuis la ville. Le gouvernement a fait voter en 2016 une loi destinée à entraver l'activité des ONG et passe aujourd'hui la vitesse supérieure. L'objectif est de museler la société civile. Vous voyez la collusion qu'il y a entre le gouvernement et la multinationale Total. Voilà, la cinquantaine d'habitations assez vastes et construites en dur constitue au premier abord un progrès pour les paysans expropriés, dont les maisons traditionnelles sont plus exiguës et moins solides. Il y a eu en effet des constructions pour ces paysans qui avaient été expulsés. Les paysans expropriés, le long des ruelles poussiéreuses, pourtant la misère saute aux yeux. Parqués dans des lotissements sans âme, les déplacés de l'or noir ont perdu la maîtrise de leur vie. On nous a donné des terres aux alentours, mais elles sont très éloignées et bien moins fertiles. Le bétail meurt, cela ne correspond pas à notre type d'agriculture. Se plaint Saddam Tekao, 49 ans. Un autre plus jeune pointe, lui, la piètre qualité des formations proposées. Presque tout le monde a été formé à la coiffure ou à la couture. Ce n'est pas comme ça que l'on crée une économie pérenne, tempère le jeune homme. Nous voulons profiter des emplois du secteur pétrolier, même les plus simples, mais nos candidatures sont systématiquement refusées. En plus, ils ne peuvent pas accéder au travail nécessaire. Voilà, alors que la COP27 s'ouvre ce mois-ci en Égypte, l'Afrique, continent le plus vulnérable au changement climatique, voit une nouvelle bombe climatique et sociale métastaser sur son flanc est. Alors, il y a un procès historique qui devrait se jouer en décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris. Total Energy, mastodonte économique avec près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est assigné en justice par 2 ONG françaises, Les Amis de la Terre et Survie, et 4 associations ougandaises pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, un texte législatif qui n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une action en justice. Adopté en 2017, dans les derniers mois du mandat de François Hollande, Le texte est unique au monde par l'étendue de son champ d'application. Il oblige toute entreprise française de plus de 10 000 salariés à identifier et prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement, résultant non seulement de ses propres activités, mais aussi des activités de ses sous-traitants en France comme à l'étranger. Amnesty avait justement longtemps travaillé pour ce texte de loi sur le devoir de vigilance. C'est un texte, vous voyez, qui est très important parce qu'il permet de mettre Total Énergie devant la justice. Donc la responsable de l'association Survie nous dit « Nous réclamons aussi l'exclusion du projet des zones protégées ainsi que l'arrêt de l'ensemble des violations des droits des personnes affectées et la mise en place en urgence de distribution de nourriture afin de remédier aux restrictions d'utilisation de leurs terres. Nous exigeons enfin la revalorisation et le versement immédiat de leur compensation. » Ensuite, il y a eu une résolution du Parlement européen qui a voté à une large majorité une résolution d'urgence dénonçant les conséquences du projet pétrolier ougandais et demandant son report d'un an afin de trouver un tracé alternatif à l'oléoduc. Harcèlement judiciaire, violation des droits de l'homme, ONG arbitrairement fermée, incidences graves et délétères sur les populations. Si la résolution n'est pas contraignante, son vocabulaire promet d'avoir une portée politique substantielle. Une campagne de pression internationale est en cours pour faire renoncer les partenaires habituels de Total Énergie à participer à son aventure ougandaise. Cette campagne a un certain succès puisque 11 banques internationales, dont les trois principales banques françaises, ont déjà refusé de financer le projet en raison de ses impacts négatifs sur le climat et la population locale. Voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site amnesty.fr et vous aurez tous les détails de cette affaire. On va maintenant écouter une chanson de Jules Bocan qui parle justement de la loi du plus fort.
Depuis que Lumumba fut tué pour avoir dit sa vérité, depuis que là-haut et là-haut, parce qu'il avait parlé tout haut, depuis qu'on étouffa une fille dans un avion pour pas qu'elle crie, les loups ont des têtes de mouton, derrière les roses il y a des chardons. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Celui qui se tient au perché, il a le droit de vous supprimer. De beaux enfants sautent sur des mines, mais on n'arrête pas la machine. D'autres sont drogués pour tuer, et la cocaïne les défait. Nous vivons en pleine barbarie, les soldats violent toujours les filles. Parce qu'il avait parlé tout haut. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Chez nous, un jeune homme fut visé, tiré comme un lièvre en un pré pour le diamant qui s'est gagné, a été totalement détruit. Il y a des fabriques et des boutiques de fusils à deux pas d'ici. La mort fait vivre nos ouvriers, l'emploi est sauf, on laisse couler. C'est celui qui est tout en haut, qui tient le manche de la faux. Si ce que tu dis cause souci, tu seras vite raccourci. Celui qui regarde jouer aux cartes, s'il pète un mot de trop, on l'écarte. Les petits regardants n'ont rien à dire, sur le jeu des grands, ça c'est bien pire. Des femmes sont tuées à chaque jour, par jalousie, par leurs amours. Il y a des petites filles qui sont forcées et toute leur vie en est gâchée. Il y en a d'autres à qui on enlève le clitoris, leur vie s'achève. À 3 ans on tourne la page, leur vivant c'est déjà veuvage. Tout le monde veut être tout en haut pour tenir le manche de la faux. Une fois qu'il tient, il veut faucher et le cauchemar de recommencer. Les petits regardants devenus grands veulent jouer au grand jeu des grands. Y en a pas un qui est épargné, tout le monde veut être le premier. Nous sommes 6 milliards tout en bas, maraboutés au nom de quoi? Au nom du pèse, au nom du fisc et du sacro-saint bénéfice. Mineurs et majeurs détournés par des bonimenteurs roués qui veulent que nous marchions au pas et dans les souliers de leur choix. C'est celui qui est tout en bas qui est bien plus fort qu'il ne croit. Si nous le voulons, toi et moi, le cauchemar s'arrêtera. 6 milliards de petits regardants peuvent devenir acteurs puissants. 6 milliards de gens conscients ensemble changent le cours du temps.
Voilà, très belle chanson et toujours très d'actualité alors qu'elle a plus de 20 ans. Voilà, je vais vous parler d'un homme, Abiy Ahmed, qui devient Premier ministre de l'Éthiopie en 2018. Il fait la paix avec l'Érythrée, pays issu d'une sécession de l'Éthiopie. Et en 2019, il reçoit le prix Nobel de la paix. La communauté internationale le croyait réformiste. Hélas, depuis 2 ans, l'un des conflits les plus meurtriers du monde se déroule loin des regards dans son pays. Alors aujourd'hui, un espoir apparaît. Le 2 novembre, le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré ont signé un accord de paix. Un premier pas dans la bonne direction, mais il doit rendre justice aux nombreuses victimes et survivants du conflit. Donc nous écoutons un responsable d'Amnesty International nous parler de ce conflit en Éthiopie. Comment ça s'appelle? L'un des conflits les plus meurtriers au monde.
C'est sur la clé. Je trouvais. Où c'est ça? Dans le Tigré?
Dans le Tigré.
Ah, pardon, voilà. On y est.
La situation est vraiment très très grave. Il y a eu de nombreux massacres à travers la région, avec notamment un massacre que Amnesty International a documenté à Aksum, où plusieurs centaines de personnes ont été tuées en l'espace d'une journée. Il était perçu comme un réformiste par la communauté internationale. Il a notamment libéré des prisonniers politiques et en 2018, il a fait la paix avec l'Érythrée, qui est un pays donc issu d'une sécession de l'Éthiopie et qui était avec des relations très conflictuelles avec l'Éthiopie depuis son indépendance. Cet accord de paix a été à l'époque bien accueilli par la communauté internationale. Ça a valu à Abiy Ahmed un prix Nobel de la paix, mais avec le recul, il apparaît que cet accord, dont les détails n'ont d'ailleurs jamais été publiés, représentait au moins en partie l'émergence d'une coalition donc entre Abiy Ahmed et le président érythréen. Et à partir de là, on a vu donc cette montée en puissance des tensions politiques. Le Tigré est une région montagneuse du nord de l'Éthiopie où vivent environ 6 millions de personnes sur une population totale de l'Éthiopie d'environ 110 millions de personnes. Le Front de libération du peuple du Tigré, qui est un mouvement originaire de la région, a pris le pouvoir en 91 après une guérilla et a gouverné le pays, ou en tout cas était la force dominante au sein de la coalition au pouvoir en Éthiopie depuis lors, avec un régime autoritaire. Et en 2018, à la suite d'un mouvement de contestation sociale, cette coalition au pouvoir a nommé Abiy Ahmed comme Premier ministre. Et Abiy Ahmed a très rapidement, en fait, écarté du pouvoir le FLPT. les tensions ont monté en puissance au cours des deux dernières années, avec notamment en 2020 le report des élections à la fois nationales et régionales par le Premier ministre, qui a mis en avant l'épidémie du Covid. Et le FLPT a en fait défié le pouvoir central en organisant ses propres élections dans la région du Tigré. Et le 4 novembre 2020, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, le conflit a éclaté à la suite de mouvements de troupes autour de la région. Les forces fédérales éthiopiennes, soutenues par l'armée érythréenne ainsi que par les forces de la région Amhara, qui est une région voisine du Tigré, qui a des différents territoriaux avec le Tigré, ont envahi donc le Tigré, avec aujourd'hui des combats qui font rage, et le FLPT qui mène une stratégie d'insurrection type guérilla assez classique. Au moment du déclenchement du conflit, l'électricité, les communications, les services bancaires ont été coupés. À la suite de pressions de la communauté internationale, le gouvernement a lâché un peu de lest et a autorisé les médias et les organisations humanitaires à se rendre au Tigré. Mais l'accès aujourd'hui reste très partiel et la situation est très problématique. Le gouvernement continue d'ignorer nos demandes d'accès au Tigré. Nous avons mené des entretiens téléphoniques avec des personnes qui sont présentes au Tigré. Nous sommes rendus dans les sites où les réfugiés du Tigré sont présents au Soudan. Enfin, notre équipe spécialisée analyse les images diffusées sur les médias sociaux afin de les géolocaliser. Et puis, nous utilisons également l'imagerie satellite afin de corroborer les témoignages. D'un point de vue humain, c'est également très difficile puisque vous voyez bien que les survivants étaient très traumatisés. Il y a de nombreux entretiens qu'on a dû mettre en pause ou arrêter car les témoins fondaient en larmes et mon traducteur fondait en larmes. Nombreux massacres ont été commis à travers la région, qui ont été documentés à la fois par Amnesty International, Human Rights Watch, mais également les différents médias. Nous avons également vu des violences sexuelles de grande ampleur contre les femmes et les filles du Tigré, le déplacement de centaines de milliers de personnes à la fois en interne et vers le Soudan. Les organisations humanitaires et journalistes ont fait état de nettoyage ethnique dans l'ouest du Tigré, région qui est occupée par les forces Amhara, donc qui sont en différent territorial avec le Tigré et qui ont tiré profit du conflit pour annexer de fait ces régions contestées. Également des pillages à grande échelle ainsi que des destructions de propriétés privées dans cette région qui est agricole. De nombreux champs ont été détruits, les récoltes ont été détruites, de nombreux animaux de ferme ont été soit tués, soit volés et envoyés vers l'Érythrée ou vers la région Amhara. Et donc aujourd'hui, les organisations humanitaires mettent en garde contre le risque de famine, étant donné la situation catastrophique de la sécurité alimentaire dans la région. Dans le cas du massacre d'Aksoum, sur la base d'une quarantaine d'entretiens avec des résidents de la ville, nous avons pu documenter que les 28 et les 29 novembre 2020, les forces érythréennes présentes dans la ville ont massacré des centaines de civils en l'espace d'environ 24 heures. Ce massacre a eu lieu en représailles à la suite d'une attaque par un petit groupe de miliciens sympathisants du FLPT contre une base érythréenne dans la ville. Les forces érythréennes présentes dans la ville ont appelé des renforts et ont commencé à massacrer à vue les civils à l'aide d'armes automatiques ou de fusils de sniper, mais également lors de raids de maison en maison. Donc les corps sont restés dans la rue dans leur maison pendant environ une journée et ont commencé à se décomposer. Les soldats érythréens tiraient à vue sur ceux qui cherchaient à enterrer les morts. Finalement, les résidents ont été autorisés à enterrer leurs morts. Les survivants ont rassemblé ces corps sur des chariots pour les emmener dans les églises de la ville et les enterrer dans des fosses communes très souvent, avec un minimum de rites funéraires puisque il y avait tellement de morts et les corps étaient dans un tel état qu'ils ont été enterré très très rapidement. Nous avons notamment pu voir, grâce à l'imagerie satellite, la présence de charniers dans les églises de la ville à la suite du massacre. Les attaques contre les civils, qu'elles soient délibérées ou disproportionnées, représentent des crimes de guerre. Lorsque ces attaques sont systématiques et à grande échelle, ça représente des crimes contre l'humanité. La réponse internationale au conflit a été malheureusement très en deçà de ce qu'on pourrait attendre, étant donné la sévérité des atrocités qui sont commises. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tergiversé pendant des mois avant d'exprimer son inquiétude vis-à-vis de la situation au Tigré. Les gouvernements de l'Union africaine et de la région se sont à peine exprimés concernant la litanie de ce qui représente sûrement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous avons deux demandes principales concernant ce conflit. La première, c'est une enquête indépendante sous l'égide de l'ONU concernant les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises depuis le début du conflit. Notre deuxième demande, c'est que les forces en présence, les belligérants, qu'il s'agisse de l'armée fédérale éthiopienne, de l'armée érythréenne, des forces Amara ou du FLPT, accordent un accès aux organisations humanitaires dans cette région, ainsi qu'aux médias et aux chercheurs en droits de l'homme.
Voilà, donc nous allons maintenant parler de l'Ukraine et comment juger les crimes de guerre commis là-bas. En effet, ils sont évalués à presque 35 000 crimes de guerre. Et est-ce que la justice ukrainienne pourra-t-elle gérer un tel flux? La question a été posée à Jeanne Sulzer, qui est responsable de la commission Justice internationale à Amnesty International France. Elle a répondu donc qu'aucun pays ne peut faire face à des violations d'une telle ampleur. Ce qui se passe en Ukraine nécessite une réponse qui doit aller au-delà de celle d'une justice nationale traditionnelle. Notons ici que les autorités ukrainiennes ont, dès le début de l'invasion, appelé les institutions internationales à prendre part à l'effort de justice. L'Ukraine n'a pas ratifié le statut de Rome, texte fondateur de la Cour pénale internationale, mais le Parlement ukrainien a lui-même saisi la CPI dès le début de la guerre. Cela avait déjà été le cas d'ailleurs en 2014 et montre que les Ukrainiens cherchent depuis longtemps une articulation entre leur propre système de justice et la CPI. La CPI traitera un nombre limité de dossiers car elle est limitée par le fait de ne regarder que les plus hautes responsabilités. C'est ce que l'on attend d'elle, d'ailleurs. Rappelons toutefois qu'il n'y a pas de procès in absentia à la CPI. L'un des enjeux majeurs est donc de savoir si les accusés pourront lui être remis. Les mandats d'arrêt sont importants, mais encore faut-il que les criminels de guerre puissent être déférés à la haie. Il existe par ailleurs une volonté des États de participer eux aussi à l'effort de justice. On le voit par la création d'enquêtes communes, comme celle créée par les pays frontaliers de l'Ukraine, par l'aide financière et matérielle apportée par certains États, par la création de portails de recueil de preuves ou encore par l'intérêt décuplé porté au principe de compétence universelle, c'est-à-dire en ouvrant des enquêtes sur des faits commis hors de leur territoire sans que leurs citoyens y soient impliqués. C'est par exemple le cas de l'Allemagne qui a ouvert une enquête structurelle sur la guerre en Ukraine. Il y a plusieurs faits nouveaux dans ce défi que pose la guerre en Ukraine à la justice internationale. D'abord, la justice est au cœur de l'agenda politique des belligérants, ce qui est inédit. On parle aussi beaucoup plus tôt que d'habitude de la responsabilité de la chaîne de commandement. Mais il faut ici éviter toute violation du droit au procès équitable et garder en tête que le temps de la justice n'est ni le temps médiatique ni le temps diplomatique. Il y a par ailleurs de multiples acteurs recueillant des preuves sur le terrain ukrainien. Les institutions, des ONG, journalistes et simples citoyens. C'est un domaine où l'on voit des innovations comme l'a montré récemment la récente directive d'Eurojust, agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres. Et de la CPI sur la continuité du recueil de la preuve à destination de la société civile. Donc on a l'impression que l'on a tiré les leçons de la guerre en Syrie, où la population avait documenté les preuves de crimes elle-même. Attention toutefois, c'est d'abord à la justice internationale qu'il appartient de récupérer les preuves sur une scène de crime. Voilà, nous allons maintenant écouter Grand Corps Malade dans son texte « J'ai pas les mots ».
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine, aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
Voilà, alors nous allons parler maintenant du groupe dinois d'Amnesty International, que chacun peut venir rejoindre s'il le désire. Hein. Nous avons donc fait une demande de dossier d'intervention, c'est-à-dire un dossier d'intervention, c'est le cas d'une personne qui est injustement en prison et pour lequel des groupes vont s'investir afin de faire connaître le cas et œuvrer à la libération de la personne. Donc nous avons reçu dernièrement le dossier de Luis Manuel Otero Alcantara. Donc c'est un artiste afro-cubain. Il est une figure du mouvement San Isidro, un groupe rassemblant des artistes, des journalistes et des militants indépendants issus de divers horizons qui défendent la liberté d'expression à Cuba. Il se décrit comme un artiste autodidacte, cubain et noir. Depuis au moins 2017, sa renommée est devenue internationale grâce à son action militante contre le décret 349, un décret qui vise à censurer les artistes cubains. Prisonnier d'opinion, Luis Manuel fait partie des centaines de Cubains et Cubaines a mérité ce titre accordé par Amnesty International. Comme bien d'autres, il est arrêté, inculpé et emprisonné dans le contexte des manifestations historiques du 11 juillet 2021, au cours desquelles des milliers de personnes sont descendues dans les rues, dans toute l'île, au nom de la liberté d'expression et de réunion, un événement sans précédent au cours des dernières décennies. Luis Manuel est arrêté le 11 juillet, peu après avoir publié une vidéo dans laquelle il déclarait son intention de se joindre aux manifestations. Le 30 et 31 mai 2022, débute le procès de Luis Manuel à huis clos, sans que les médias internationaux, les ONG de défense des droits humains ou les représentants des ambassades ne soient autorisés à suivre les audiences. Selon un document du tribunal, le procureur requiert une peine représentant au total 7 ans de prison contre Juan Manuel Otero Alcantara. Il est accusé d'outrage au symbole de la nation pour avoir utilisé le drapeau cubain dans le cadre de sa performance « Drapeau » qui consistait à revêtir le drapeau cubain ou à l'emporter partout avec lui 24 heures sur 24 pendant un mois. Le procureur l'accuse également de troubles à l'ordre public et outrage pour s'être réuni avec Mikel Castillo Pérez et d'autres personnes lors de la manifestation du 4 avril 2021 pour avoir chanté la chanson « Patria y Vida » en public et tenu des propos offensants à l'encontre de l'ancien président Raúl Castro. Selon ses proches, Luis Manuel est autorisé à recevoir des visites de sa famille tous les 15 jours et des appels téléphoniques de 3 à 4 minutes deux fois par semaine. Cependant, les autorités le privent régulièrement de son droit de visite et d'appel pendant sa détention. Le 24 juin 2022, le tribunal municipal populaire de La Havane condamne les artistes Luis Manuel Otero Alcantara et Mikel Castillo Pérez à 5 et 9 ans de prison respectivement. En réaction à la décision prononcée, Erika Guevara Rosas, directrice du programme Amérique Amnesty International, déclare « En dépit des demandes de divers acteurs de la communauté internationale, les procès de Luis Manuel et Mikel, qui n'auraient jamais dû avoir lieu, se sont déroulés à huis clos et sous le contrôle étroit de la police, selon les militants. Amnesty International a par ailleurs reçu des informations de la part de ses militants et de journalistes qui dénonçaient la présence d'agents des forces de sécurité aux alentours de leur domicile, visant à les empêcher de se rendre aux abords du tribunal de Mariano à La Havane. Voilà, donc nous venons de recevoir ce dossier et nous allons d'abord nous réunir par vidéo avec les autres groupes qui ont le même dossier et puis envisager des actions pour faire connaître ce cas et aider à la libération de ce prisonnier d'opinion. Alors un prisonnier d'opinion, quand Amnesty déclare que quelqu'un est prisonnier d'opinion, c'est qu'il a utilisé juste sa liberté d'opinion sans utiliser la violence et qu'il est en prison pour ça. Voilà, nous allons maintenant écouter une musique cubaine. Palo Almonte. Yo! Voilà, je vais maintenant vous lire un appel de l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers qui a été créée à Digne-les-Bains. Voilà un peu son historique. Fin 2016, un centre d'accueil et d'orientation, un CAO, avait été ouvert à Chantercier pour recevoir des personnes expulsées de la fameuse jungle de Calais, vous vous souvenez. En 2017 et 2018, les adultes ont été orientés ailleurs ou ont suivi d'autres chemins, si bien qu'en 2019, ne restaient que des jeunes. Ceux qui étaient reconnus mineurs étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dépendante du conseil départemental, mais de nombreux problèmes, voire malveillance, ont écarté une partie de ces jeunes, non reconnus officiellement mineurs, de toute assistance. Un petit réseau informel de citoyens, citoyennes, solidaires de la proche région s'est constitué pour leur éviter la rue et tous les dangers. Il a fallu héberger, nourrir, vêtir, accompagner dans des parcours de soins, de scolarisation et de recours auprès de la juge des enfants, contre des décisions du procureur, la plupart du temps, de non-lieu à assistance éducative. L'association de soutien aux jeunes isolés étrangers s'est créée. Nous maîtrisons de plus en plus les démarches administratives et juridiques, mais les quelques membres qui hébergent ces jeunes le temps des recours, parfois 6-8 mois ou plus, arrivent à épuisement et souhaiteraient vivement être rejoints par de nouveaux bénévoles pour pouvoir mettre en place un système de rotation. Il est plus facile et léger de s'engager pour un mois ou deux en sachant qu'il y aura des relais. Donc il faudrait être beaucoup plus nombreux à pouvoir accueillir ces jeunes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails. Merci de votre attention et de partager cet appel autour de vous. Donc, pour nous contacter, c'est l'association de soutien aux jeunes isolés étrangers, 10 impasse des Augiers, 04000 Digne-les-Bains. Et nous avons un mail, donc tout attaché, soutien au singulier, jeunes au pluriel, isolés sans accent, étranger, tout ça est attaché. Soutien jeune isolé étranger, @gmail.com. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous parler, bien sûr, que début décembre va avoir lieu les 10 jours pour signer. Nous serons à la médiathèque le samedi 10 décembre pour faire signer les 10 cas. Et parmi ces 10 cas, il y a le cas de notre Cubain Alcantara. Et à cette occasion, nous allons mettre dans la salle d'exposition de la médiathèque, à partir du lundi 5 décembre, deux expositions. La première, c'est Amnesty International, 50 ans de militantisme en France. Cette exposition retrace l'histoire et l'évolution d'Amnesty France. Elle met en avant celles et ceux qui se mobilisent et agissent au quotidien pour la défense des droits humains. Et puis, il y aura une deuxième exposition dans la salle en même temps. C'est une exposition de photos de l'agence Magnum, et faite avec Amnesty International et qui s'intitule Amnesty International, nos combats. C'est une sélection de photos qui revient sur 60 ans de mobilisation et de combats portés, souvent gagnés, par Amnesty International. Voilà.
Et cette seconde exposition, c'est à la suite ?
Non, c'est en même temps.
En même temps,
en même temps, il y aura deux expositions dans la salle. Une donc sur Amnesty International, 60 ans de militantisme, et une exposition photo de l'agence MACMA sur aussi les combats d'Amnesty International depuis 60 ans, là, au niveau mondial.
Régis Coulange, merci. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles informations sur nos droits humains dans tous les pays.
Merci.